Pour remplir le baptistère, c'est toujours un peu spécial. Il y aura un peu plus de bruit, mais on va essayer de se concentrer. Bonjour à tous. Si on ne s'est pas encore vu, bonjour. On se verra après pour le repas en commun. On peut manger ensemble encore. C'est un plaisir de pouvoir encore ouvrir la Bible avec vous. On continue dans notre série sur la petite lettre de l'apôtre Paul à un gars qui s'appelait Tite. Et si on veut, il était un planteur d'église, il a démarré une église, on n'est pas sûr si c'était vraiment lui au début, mais en tout cas, il reçoit dans le texte qu'on va lire ce matin, vraiment des instructions sur comment bien mettre en place l'église dans ses premières années. Et nous, pour fêter nos 5 ans, on regarde un peu les conseils comme ça d'un homme expérimenté, l'apôtre Paul, qui parle à Tite. Donc, dans les Bibles blanches, si tu veux suivre avec nous, ça va être la page 785. La page 785. Tite, chapitre 1, ça va être les versets 5 à 10. Alors, on a vu jusqu'à maintenant, dimanche dernier, c'était le premier message, que la vie, de manière générale, c'est une guerre pour nos pensées. Si tout d'un coup, Dieu rentre dans l'équation, si tout d'un coup, on se rend compte que Dieu existe, qu'il nous a créés, qu'il a un plan pour notre vie, tout d'un coup, plus rien n'est anodin dans notre vie. Tout a des enjeux. Et on a vu qu'au verset 1, donc vraiment la première, les deux premières lignes là de notre texte, de Tite, pardon, Paul dit qu'il a été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. On a vu 3 choses que l'apôtre Paul cherche à encourager dans chacune des vies de ceux qui croient en Jésus, de ceux qui réalisent qu'ils sont pécheurs et que Jésus est venu mourir pour nos fautes. Il cherche à encourager, à renforcer notre foi dans ce sacrifice, dans cet acte incroyable que Dieu devienne homme et meure à notre place. Encourager cette foi, encourager une connaissance de la vérité et nourrir notre espérance dans ce retour de Jésus, dans cette justice qui sera apportée. Et donc, tout d'un coup, il y a une bataille à tous les niveaux. Parce que tous les jours, on est confronté à des situations qui veulent mettre en péril notre foi. Le doute apparaît dans notre cœur, dans nos pensées. C'est une guerre pour la foi. C'est une guerre aussi pour la vérité. On est rempli de contre-vérités. Toute personne qui ne pense pas que Dieu existe est déjà en train de croire une contre-vérité et va donc plus facilement nous transmettre aussi d'autres valeurs que celles de Dieu, d'autres raisonnements que ceux de Dieu, d'autres objectifs pour notre vie que ceux de Dieu. Et puis peut-être celui qui était le plus clair dans le texte de dimanche dernier, c'est la grande majorité autour de nous, on nous dit, en culture française, il n'y a que cette vie. Profite de la vie, il n'y a que cette vie, après c'est le néant. Après, c'est la grande inconnue. Profite de la vie. Et Dieu ne nous permet pas de croire cela. On va vivre éternellement, soit éternellement dans la joie de sa présence, lavé de nos fautes et pouvant vraiment connaître le bonheur tel qu'on aurait dû le connaître si on ne s'était pas rebellé contre lui, si on ne l'avait pas rejeté. Ou on va vivre éternellement loin de sa présence, dans l'horreur du jugement de nos péchés. On appelle ça l'enfer. On a chanté qu'on croit dans ce jugement de Jésus. Donc, c'est une guerre pour tes pensées. Et ici, on arrive dans un texte qui va tous nous concerner. Et j'espère que tu vas voir que ce n'est pas tiré par les cheveux. Les enfants, vous êtes concernés. Les jeunes, vous êtes concernés. Les plus âgés, vous êtes concernés par un texte qui parle de leadership. Et donc, c'est la première chose qu'on va voir. Une intro. 5 bonnes raisons d'écouter un message sur le leadership, même si on n'est pas leader. OK ? On va regarder ça. Oui, 5 raisons. Et ensuite, on va aborder le reste du texte en 2 parties. Tout simplement, Dieu veut des leaders pour chaque église. Et si tu es gêné par l'anglicisme leader, qui est utilisé de plus en plus en France, tu peux remplacer ça par responsable et je ne vais pas te juger, si toi tu ne me juges pas d'avoir utilisé leader. Et puis, deuxième point qu'on va voir, c'est Dieu veut des leaders irréprochables et ce n'est pas ce que tu penses, probablement. OK ? Ce que Dieu entend par irréprochable, ce n'est pas forcément ce que tu penses. Donc, voilà le programme, le menu pour ce matin avec les quelques minutes qu'on a. Il y aura un petit moment où on va galoper, vous allez voir, il y a 12 caractéristiques pour un responsable que Dieu recherche, et là on va galoper parce que franchement, on pourrait. Il y a des gars qui se sont permis de faire 12 messages sur ces 12 qualités par exemple. On ne va pas faire ça ce matin. Ok ? Donc on revient, intro. 5 bonnes raisons pourquoi en tant qu'enfant, en tant que personne qui je dirais même pas chrétienne, mais qui se pose des questions, soit en tant que chrétien de longue date, 5 bonnes raisons d'étudier ce passage. Première raison, moi j'espère qu'un jour tu seras membre d'une église locale, ou j'espère que tu es membre d'une église locale, et tu vas voter pour des responsables. Et donc c'est quand même bien de savoir, même si on lit à chaque fois avant de voter pour des responsables d'église, on relit ces textes, c'est bien de vraiment savoir qu'est-ce que Dieu recherche dans un responsable. Deuxième bonne raison, et la cinquième raison, ce sera pour les enfants et les jeunes, donc restez attentifs. Même si les 4 premières sont déjà pour toi aussi, mais je vais vraiment parler à toi. Deuxième bonne raison, tu apprendras l'importance des leaders de l'Église et ce que tu es en droit d'attendre d'eux. Tu as un droit envers nous, les 3 responsables actuels et tous les futurs qui seront là, tu as un droit envers nous. Tu vas voir qu'est-ce que c'est. Troisième bonne raison, tu sauras mieux prier pour tes responsables si tu vois ce que Dieu attend d'eux. Quatrième bonne raison, tu vas apprendre que cette liste est plus pertinente pour ta vie que tu ne pensais. Et c'est justement la fameuse clause irréprochable. Ça ne veut pas dire ce que tu penses, on va le voir dans le contexte de ce texte, et que tout d'un coup, tout le texte devient plus pertinent pour nous. Et cinquième bonne raison, là je parle à vraiment tout le monde, que tu te considères chrétien ou pas, mais peut-être une parenthèse, avant d'arriver à ça, parce que je sens que c'est dangereux, si je ne suis pas compris. Parler du leadership, parler des responsabilités, c'est un peu compliqué, ok ? Peut-être dans toutes les cultures, mais on t'attend au tournant. Il y a pas mal de virages dans le sujet. Donc déjà, on a une tendance naturelle, je pense peut-être en France, de suspecter le péché d'orgueil chez ceux qui sont responsables. Je ne sais pas si c'est toi ou pas, mais je pense que c'est en moi et on suspecte l'orgueil chez ceux qui sont devant. Deuxième aspect compliqué, je suis devant. Okay? Donc je vais vous parler de choses de leadership et bien sûr on peut me juger parce que je suis en train de parler de moi-même. Mais on va essayer de se concentrer sur ce que Dieu dit dans Tite et c'est pour ça qu'on ose en parler. Et puis, troisième complication, c'est que, en France, de manière générale quand même, parce qu'on voit l'ambition pour prendre des responsabilités comme étant une marque d'orgueil, il y a une certaine fierté à ne pas avoir d'ambition. Et ça, on le voit aussi pas mal. Peut-être pas forcément dans l'entreprise, mais dans plein de domaines, on voit une certaine fierté à ne pas rechercher des responsabilités. Et, justement, si vraiment c'est une guerre pour nos pensées, et que la Bible nous a été donnée pour nous montrer ce que Dieu pense, pour nous montrer comment Dieu voit les choses, on voit ici comment Dieu voit les responsabilités dans l'Église, comment Dieu voit le leadership. Et juste avant d'arriver à cette cinquième bonne raison d'écouter, je te lis 1 Timothée 3, où c'est une bonne chose de désirer prendre des responsabilités. 1 Timothée 3 dit, « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire, si quelqu'un désire, la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, on pourrait dire ancien, on va voir pourquoi. Ancien, responsable, dirigeant, leader, c'est une belle tâche qu'il désire. Et donc, est-ce que ce n'est pas possible que dans ta culture, que ce soit au lycée, que ce soit dans ton club de sport, que ce soit au travail, que ce soit dans l'association, que ce soit dans ta famille, le leadership est vu très vite comme quelque chose de négatif, comme une marque d'orgueil, alors que Dieu veut qu'on désire prendre des responsabilités. Et on va voir que c'est même encore plus clair que c'est une marque de maturité. Et donc, cinquième bonne raison d'étudier ce passage, c'est que probablement tu devrais, que tu aies 10 ans, que tu aies 15 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 77 ans, tu devrais vouloir avoir la maturité que Dieu recherche ici pour un responsable. Et donc vous voyez que c'est compliqué parce que je vais parler de responsable. Et les anciens, quand on lit ce texte, on se dit, mais moi, j'ai pas cette maturité ou pas. C'est compliqué, hein. C'est franchement compliqué comme sujet d'en parler un dimanche matin. Mais c'est le texte, c'est la parole de Dieu, et donc on va l'aborder. Moi, je voudrais t'encourager, peu importe où tu en es dans ta marche avec Dieu, de voir ce texte, donc cinquième bonne raison, comme un objectif qu'on devrait viser. Pas forcément devenir ancien, devenir responsable d'une église, mais que tu sois, que tu aies la maturité qu'on devrait pouvoir te considérer. Comme quelqu'un de mûr, comme quelqu'un qui montre une vie transformée par Jésus. Et je vais même aller plus loin. Moi, j'ai grandi dans le Nord-Pas-de-Calais, et les situations des églises sont encore plus désespérantes qu'ici. Hein. Ici, on est gâtés. Hein. On a une église pour 30 000 habitants. Là-bas, c'était une église pour 50 000. Franchement, c'était assez clair pour moi à 20, 21 ans. Et je sais que j'hésite, même en vous le disant, parce qu'on peut attaquer ça d'orgueil. Je ne pense pas qu'il y avait plus d'orgueil que la moyenne. Mais tu grandis dans une petite église qui a 20 ans d'âge et on est toujours une petite quarantaine. Tu sais que si tu continues à creuser la parole de Dieu, si tu continues à mettre à mort le péché dans ta vie, si tu continues à désirer faire plaisir à Dieu et le connaître et le faire connaître, c'est une question de temps avant que tu sois responsable d'une église. C'est une question de temps. Alors oui, la question homme-femme, Dieu a quand même délimité certaines choses. Il y a des responsabilités qui sont réservées aux hommes qualifiés. Mais ça n'empêche pas qu'ici, on a un texte qui montre ce que Dieu recherche aussi dans chaque personne. Et vous allez voir pourquoi. Donc, je te parle, Naël, je te parle, Théo, je vous parle tous. Hein. Est-ce que tu te rends compte que selon la région dans laquelle tu te trouves, si tu vas aller faire tes études à Lille, par exemple, et tu passes 10 ans là-bas, c'est très probable que si tu as un désir de connaître Dieu, au bout de 10 ans, tu vas être considéré apte à être ancien si tu progresses. Et je crains qu'on a un manque d'ambition à ce niveau-là. Ambition, c'est un mot qui est sali dans notre culture, mais un manque de désir de grandir. Et si on veut atteindre les nations comme on l'a chanté, si on veut accomplir le plan de Dieu, on a besoin de leaders dans nos églises qui sont prêts à endosser ces responsabilités. Parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de gloire et il y a beaucoup, beaucoup de prix à payer. Et on a besoin que chacun ressente ce désir d'être apte à prendre ses responsabilités. Longue intro au galop. Donc, Dieu veut des leaders. Première partie plutôt rapide. Regardez le premier verset. Je vais prier pour nous et on va commencer à regarder le texte. Père, tu vois la longue intro. S'il te plaît, purifie nos désirs. Tu vois que on peut vouloir les bonnes choses pour les mauvaises raisons. On peut avoir un manque de motivation aussi pour les mauvaises raisons. Père, s'il te plaît, aide-nous tous à progresser. Et merci pour ta parole qui est parfaite, qui est tout ce qu'on a besoin pour te connaître et te faire connaître. Et s'il te plaît, bénis ces quelques minutes devant ta parole. Aide-nous à comprendre ce que tu dis et aide-nous à voir ce que tu veux changer, transformer dans notre façon de penser et d'agir. Agis, s'il te plaît, Père, pour ta gloire. Amen. Verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Trois petites remarques sur le fait que Dieu veut des responsables. Dieu veut des leaders dans une église. D'abord, à Pont, on a trois responsables, on est trois anciens. On essaie de les appeler des pasteurs parce que c'est un peu plus compris par la culture française. Le mot ici, c'est ancien, vous avez vu. Et la première chose à remarquer, que la Bible utilise plusieurs mots différents pour parler de plus ou moins la même chose. Et c'est souvent une info de base qu'on oublie de dire. Et ensuite, on crée des fausses distinctions. Donc, regarde, verset 5. Paul parle de établir des anciens. Et ensuite, au verset 7, il dit, en effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable, et dans beaucoup de traductions, vous avez évêque, il faut que l'évêque soit irréprochable. Et certaines personnes vont dire que c'est deux postes différents qui parfois se chevauchent. Et franchement, c'est tiré par les cheveux. La Bible, à partir du Nouveau Testament, on voit qu'il y a deux ou trois mots qui sont utilisés pour des postes à responsabilité dans l'Église. On a le mot évêque qui est utilisé, on a le mot ancien qui sont majoritairement utilisés, c'est les deux qui vont apparaître le plus souvent, et souvent ils apparaissent ensemble. Et on ne va pas prendre le temps, mais on le voit dans les actes, que Paul va appeler les anciens, et ensuite ils disent « Dieu vous a établi évêque ». On doit quand même conclure que c'est très très similaire. Pareil ici, il dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu établisses des anciens dans chaque ville », et ensuite il parle de responsable. Le mot original, c'est évêque, derrière. Et certains vont dire, oui, mais là, c'est au singulier dans le verset 7, alors que c'est au pluriel dans le verset 5. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est tout simple, la réponse. Au verset 6, dans le grec, on a un mot singulier pour dire, s'il se trouve quelqu'un d'irréprochable, et ensuite, il commence au singulier. Donc, c'est normal que Paul reste au singulier. Okay? Donc, c'est la même chose. Quand tu vois responsable, évêque, ancien dans ta Bible, c'est ce poste de berger d'une assemblée, d'une église locale. Deuxième remarque, le mot ancien apparaîtra toujours au pluriel. Il y a toujours plusieurs anciens sur une église qui sont établis. Et on a voulu faire ça au démarrage de l'église. Il y avait pendant très, très peu de temps Bruno qui était seul parce que c'était un ancien dans notre église mère à Villeurbanne. Ensuite, il y avait Laurent, il y avait moi, puis il y avait Mathieu. Une église a besoin d'une pluralité d'anciens. On pourrait faire tout un message ou une discussion en conseil de famille un après-midi, parce que parfois ça complique les choses aussi, hein, comment travailler avec une collégialité, avec une pluralité d'opinions, mais la Bible encourage une pluralité de responsables, de bergers. Troisième remarque, qui est peut-être liée à certaines choses qu'on vit, mais on a quand même pas mal d'anciens darbistes dans notre église, et donc, petite remarque, ce texte ici, par exemple, des églises de cette tendance-là, c'est des vieilles églises historiques, vont dire une église ne devrait pas avoir d'anciens parce qu'on n'a pas d'apôtres pour les mettre en place. Il nous faut un apôtre. Et je vais quand même juste en profiter ici. Ce n'est pas la preuve infaillible. Mais regardez, on a une lettre que Paul écrit à Tite pour établir des anciens. Donc, on a déjà une autorité déléguée. Plus que ça, Tite, vous allez voir à fur et à mesure qu'on avance, a très probablement été écrit pour être lu par plus de personnes que Tite. On le voit dans l'intro, les versets 1 à 4, on voit que Paul prend beaucoup de temps pour rappeler de qui il a reçu sa mission de prêcher. Tite sait tout ça. Pourquoi est-ce qu'il sera en train de le rappeler? Il le rappelle parce que Tite va devoir dire des choses très dures à l'Église qui est en Crète. Et c'est pour ça, au chapitre 2, verset 15, donc la page suivante, il doit encourager Tite en disant « Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. » Parce qu'il va devoir parfois envoyer des claques. Parce qu'il y a des menteurs, il y a des personnes désobéissantes dans l'Église. Et il doit dire des choses dures. Et donc, dans son introduction, Paul est en train de rappeler son autorité et le lien qu'il a avec Tite pour accomplir son travail sur l'île de Crète. Et on voit aussi à la fin de la lettre, qu'il termine au pluriel, que la grâce soit avec vous tous. Il est en train de s'adresser à un public plus large que juste Tite. Et donc, si Tite est écrit pour plus que juste Tite, est-ce qu'on ne peut pas aussi voir cette liste de qualifications ici pour un ancien comme étant beaucoup plus que simplement « Tite, voilà ce que tu dois rechercher », mais que l'Église sache ce qui est recherché. Et vous comprenez tout d'un coup, c'est normal qu'une Église recherche des anciens. Même si une Église n'a pas d'apôtre, même si une Église n'a pas d'apôtre délégué comme un Tite, on a la parole de Dieu et on peut mettre en place des anciens en regardant ces critères. Voilà, petite pensée. Deuxième point, et on va passer le reste de notre temps ici, Dieu veut des leaders irréprochables. Dieu veut des leaders irréprochables, et je pense pas que ça veut dire ce que tu penses que ça veut dire. Dieu veut des leaders irréprochables. Lisons-le, la suite. Donc, établissent des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. J'ai oublié de mentionner la pluralité. Hein, c'est, on a bien des anciens dans chaque ville. On a vraiment l'impression, plusieurs anciens, chaque ville. Le lien est là. Et ce n'est pas établissent un ancien dans chaque ville, par exemple. Verset 6. Des hommes irréprochables. Voilà les conditions. On va voir trois choses. Irréprochables dans leur vie familiale, dans leur caractère et dans leur doctrine ou leur croyance. On commence, verset 6. Des hommes irréprochables, fidèles à leur femme, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. Première grande catégorie. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc on a trois grandes catégories assez claires, hein. Vie familiale, caractère et doctrine. Prenons-les dans l'ordre. On va aller assez rapidement et on va se concentrer sur les quelques-uns peut-être qui sont les plus débattus pour que vous puissiez voir comment on comprend ces textes ici. Donc des hommes irréprochables, fidèles à leur femme. Dans beaucoup de traductions plus littérales, vous allez avoir le mari d'une seule femme. Et c'est vraiment comme ça dans le grec. C'est vraiment bizarre comme tournure. Et il y a trois grandes options, mais franchement la plus claire, et il y a quand même un assez grand consensus, c'est l'idée, pas qu'il soit marié une seule fois ou qu'il n'ait pas divorcé, mais c'est avant tout qu'il ait la réputation d'être un homme fidèle. C'est un homme dont les yeux ne se baladent pas. C'est un homme qui ne flirte pas avec les autres femmes. On sait que c'est un homme fidèle, attaché à sa femme, et c'est la seconde 21 qui a choisi cette traduction-là. Et les autres options, pourquoi elles ont des problèmes, c'est qu'on voit qu'il y a effectivement les veuves, par exemple, doivent être, dans un autre texte des épîtres de Paul, les veuves doivent être des femmes d'un seul mari, mais il encourage quand même les veuves à se remarier, par exemple. Donc c'est très bizarre que ce soit qu'on n'ait pas pu avoir deux mariages, des choses comme ça. C'est beaucoup plus une notion de fidélité, une expression peut-être de l'époque pour parler de la fidélité d'un homme ou d'une femme. Une femme d'un seul mari, un homme d'une seule femme. Donc, ils doivent être irréprochables. J'ai oublié de mentionner, irréprochable ici, vous allez voir, apparaît deux fois dans le texte. Chaque fois, en début d'une liste. Vous avez vu, verset 6, il faut des hommes irréprochables dans la vie familiale. Et ensuite, il va recommencer avec irréprochable pour sa longue liste de 12 caractéristiques. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose à remarquer. On va voir les 12 caractéristiques très rapidement. Mais souvent, on s'arrête à irréprochable et tu as une image qui se projette dans ton cerveau en disant « Ouais, mais je ne serai jamais ça. » Et je te confirme, nous les trois anciens, on a la même image et on ne sera jamais ça. Et Calvin, Jean Calvin disait que si irréprochable veut dire sans péché, on n'en trouvera jamais un ancien. C'est Jean Calvin, il était bien plus strict que moi et que n'importe qui ici, je pense. Non, la notion d'irréprochabilité, c'est une question un peu comme pour les élections présidentielles, où les candidats sont passés à un gris pour s'assurer qu'il n'y a pas de squelette dans le placard que les médias ou que les concurrents vont balancer au mauvais moment. Et vous avez vu les dernières élections, les squelettes qui sortaient des placards avec des timings très, très précis. Ici, c'est est-ce que dans son caractère public, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il est connu comme étant fidèle à sa femme? Première question à se poser. Deuxième question, regardons les enfants. Et la liste ne se veut pas forcément exhaustive. Il n'y a pas tous les points ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en rajouter parce qu'il y a deux listes comme ça pour les anciens dans la Bible et ils n'ont pas tous les mêmes points. Donc, c'est aussi lié au contexte, aux besoins. Donc, par exemple, ici, dans une jeune église, il n'est pas mentionné que les anciens ne soient pas nouvellement ou jeunes convertis. C'est un peu logique. Alors que dans une église plus ancienne, tu ne cherches pas des jeunes convertis. Bah, dans une église nouvelle, il y a des fortes chances que ça va être des jeunes convertis, parce que tout le monde est jeune converti. Deuxième question, c'est dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. Je pense que c'est celui avec lequel j'ai le plus débattu cette semaine. La seconde 21 a choisi de mettre le mot croyant, et c'est parce que le mot derrière, c'est fidèle, qui peut soit être compris comme étant un fidèle, on parle d'un fidèle dans une église, c'est un croyant, ou on parle de quelqu'un qui est fidèle, c'est d'une attitude. La seconde 21 a donc choisi pour croyant, quelqu'un qui serait aussi chrétien, donc tous les enfants devraient être chrétiens. Et c'est beaucoup, beaucoup d'experts penchent quand même pour cette option-là, donc j'avoue que j'ai vraiment du mal. Mais pourquoi ils penchent principalement pour cette option? C'est que dans 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, le mot fidèle quasiment toujours veut dire croyant. Mais si on regarde dans le Nouveau Testament, c'est que 20 fois sur 70 que ça veut dire croyant. Donc est-ce que Paul vraiment voulait dire croyant ici? Et moi, franchement, là, c'est. Il ne faut pas se sentir coupable si vous avez une autre opinion que nous. Mais il me semble que les trois anciens, on est d'accord quand même de voir ici que c'est le contexte qui devrait primer sur le sens du mot et pas généralement Paul, il s'en sert comme ça parce qu'il peut utiliser le mot différemment. Et le problème ici de parler de croyance, c'est que c'est très, très exigeant et il est plus exigeant ici dans une jeune église que à l'église d'Éphèse dans 1 Timothée 3, l'autre liste de caractéristiques. Où il ne demande pas que les enfants soient croyants, il demande juste, je vais le lire, 1 Timothée 3, page 781, première colonne, verset 4, « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» Donc, dans une église établie où les enfants auraient eu le temps de devenir chrétiens à leur tour, ils ne le demandent pas. Et à Tite, dans une jeune église, ils seraient en train d'exiger plus. Franchement, il nous semble que le contexte, c'est plus des enfants qui sont fidèles, peut-être fidèles à leur papa. Justement, on voit une loyauté avec le papa, un amour pour le papa. Ça va être super important pour la suite parce que l'ancien devient en fait un papa pour toute une famille qui est l'église. Et s'il ne sait pas être aimé, respecté par sa famille biologique, comment est-ce qu'il va prendre la responsabilité de la famille de Dieu? Voilà comment on interprète le texte ici, à un instant T. Peut-être que ça va encore, il y aura une donnée qu'on a ratée, mais voilà où on en est. Ça, c'est la vie familiale. On recherche, est-ce que cet homme a un caractère dans sa vie, une attitude dans sa vie de famille, où il n'y a rien, on pourrait dire, oulala, que les gens de l'extérieur, même les non-chrétiens, pourraient dire, bah attends, comment est-ce qu'il va prendre des responsabilités? Deuxième catégorie, Dieu veut des leaders irréprochables dans leur caractère. Et là, on a les 12 facettes qui sont mentionnées, avec la dernière étant la doctrine. Et on va parler très loin, mais ce que je veux juste surtout qu'on remarque, c'est que c'est beaucoup moins exigeant que tu penses, peut-être. C'est beaucoup moins exigeant que beaucoup de personnes pensent. Regardez un peu la liste. Il faut que le responsable soit, en tant qu'intendant de Dieu, donc c'est vraiment la même notion, qu'il est responsable d'une maison. L'intendant, c'est quelqu'un qui a une autorité déléguée. Dieu, c'est le chef de la maison, et il a un intendant en chef, si vous voulez, qui s'occupe de la maison. Il faut que le responsable en tant qu'intendant de Dieu soit irréprochable. Et voici la liste. Il ne doit pas être arrogant. Ça semble raisonnable comme exigence. Si tu trouves que quelqu'un clairement est arrogant, si ça se voit, on est tous plus arrogants qu'on le pense. Okay? Parce que quelqu'un a fait la remarque que quelqu'un qui a des problèmes d'estime de soi, et souvent, eux aussi sont souvent arrogants, parce qu'ils pensent toujours trop à eux-mêmes. Peut-être qu'ils ne pensent pas trop d'eux-mêmes, dans le sens qu'ils ne se prennent pas pour plus qu'ils ne sont, mais ils pensent qu'ils devraient avoir plus d'importance dans nos vies qu'ils ne l'ont. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a tous un problème d'arrogance. Mais un ancien ne devrait pas clairement avoir un problème. Ah oui, lui, il est arrogant comme gars. Deuxième trait de caractère, il ne doit pas être colérique. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui ne devrait jamais se mettre en colère? Non, colérique, c'est un trait de caractère. On a tous un problème avec la colère. On est pécheurs, on a des émotions qui sont mauvaises. Mais si un candidat pour être ancien, clairement, a un problème avec la colère et c'est un trait de caractère, oh oui, lui, il est colérique. Hein. Il démarre au quart de tour. Là, c'est un problème. Donc, il m'arrive de me mettre en colère et je demande pardon, j'espère aussi rapidement que possible. Bruno a permis de me dire, qu'on dise aussi, il s'est mis en colère récemment, mais il a dû demander pardon à quelqu'un récemment. Ça nous arrive de nous mettre en colère. On parle d'irréprochable aux yeux du public. Est-ce que cette personne est colérique? Buveur. Je pense que c'est assez clair. Si quelqu'un est connu parce qu'il ne peut pas vivre sans alcool, il est dépendant au quotidien ou dépendant de façon régulière pour se sentir bien, c'est disqualifiant. Il est dépendant de substances pour sa bonne humeur, il dépend de substances pour se sentir bien. Violent, ni attiré, pardon, violent. Souvent, les gens lient buveur et violent ensemble. Mais on le voit si quelqu'un est violent. Ce que je veux que vous remarquiez dans cette liste, c'est que ce n'est pas choquant ce que Dieu demande. C'est même, on se dit, bah ok, c'est un peu logique, quoi. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est nouveau, ça. Parce qu'on lit cette liste avec le mot irréprochable, et on se dit, wow, la barre est tellement haute. Bah, franchement, j'espère pour beaucoup d'entre nous qu'il y avait très très peu de ces caractéristiques qui sont les tiennes. Ni attiré par le gain. Personnellement, c'est celle que je sens, parce que j'étais plutôt dans le business avant de devenir pasteur, j'ai du mal parfois parce que c'est tellement différent, le monde associatif, les relations sont parfois floues, les objectifs sont flous. Moi, ça me manque, ce côté d'aller changer le monde par une entreprise. Et je dois régulièrement me demander, est-ce que j'ai une idole avec l'argent ? Parce que le fait d'être pasteur, tout d'un coup, tu quittes ce monde-là complètement, quoi. Et j'ai dû renoncer, par exemple, à tout business en dehors de l'église, parce que je démarrais des petits trucs, parce que ça me faisait plaisir, mais il y avait peut-être des mauvaises motivations. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a je prends le terme, là, ni attiré par le gain ? Quand même, c'est une caractéristique. Est-ce que on sait que cette personne, oulala, eux, ils sont toujours en train de t'entuber, ils sont toujours en train de faire des coups foireux, ils cherchent tous les moyens de nous arnaquer. C'est quelque chose, est-ce que c'est visible que cette personne a un amour pour l'argent et donc est prête à mettre en péril des relations pour l'argent? C'est pas super, super fou comme exigence. Il doit être au contraire, et là on a les 7 caractéristiques positives, hospitalier, super important, avoir une maison ouverte, surtout dans une culture où il y avait la persécution, où il n'y avait pas forcément des bâtiments et tout ça, les églises se réunissaient chez des particuliers. Donc est-ce que cette personne aime ouvrir sa maison pour accueillir les personnes, accueillir ceux qui ne sont pas accueillis habituellement, accueillir les inconnus qui sont de passage, qui se disent chrétiens et ils prennent des risques, peut-être ils vont se faire voler durant la nuit. Est-ce que ces personnes qui sont courageuses pour accueillir? Ami du bien, réfléchi, juste, saint, dans beaucoup de traductions, consacré, maître de lui. J'espère, on va avancer, mais ce n'est pas des caractéristiques dingues. Je suis désolé, hein, ce n'est pas absolument fou. Réfléchi, c'est la maîtrise de soi dans les pensées. Maître de lui, c'est la maîtrise de soi dans les appétits, dans le manger, dans le corps. Mais franchement, c'est... Vous me suivez ou pas? La liste est moins... Si on voit irréprochable comme étant irréprochable dans cette liste familiale, irréprochable dans ses caractéristiques de sa personnalité et de sa doctrine, tout d'un coup, le texte, la barre n'est pas si haute. Et enfin, probablement là où ça se joue le plus, verset 9, attaché à la parole, digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et c'est Je pense pas exagérer que c'est généralement là que ça se joue un responsable dans une église. Est-ce que tu es en train de t'attacher à la bonne nouvelle de Jésus tous les jours de ta vie? En train de grandir pour mieux l'apprécier? D'être tous les jours remis à ta place? Nous sommes tous pécheurs. On est tous pires qu'on ne réalise. Et un grand Dieu, par amour, est devenu homme pour avoir des mains et des pieds qui pourraient être cloués à la croix pour mes péchés, pour tes péchés. Est-ce que tu es attaché à ça? Est-ce que tu grandis dans ton attachement à cette grâce-là, à cette bonne nouvelle-là? Et la puissance pour changer, la puissance pour vivre une personnalité, un caractère qui reflète la grâce de Dieu, la puissance se trouve dans cet évangile. C'est pour ça, un peu plus loin dans Tite, verset 11 du chapitre 2, Paul dit, vous êtes avec moi? Tite 2, 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Donc tous les hommes peuvent être sauvés par un seul moyen, par la grâce de Dieu qui nous est montrée à la croix de Jésus-Christ. Et il dit, cette grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, païen, et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance. On a le même mot qu'au verset 2 de Tite 1. Cette bienheureuse espérance. Voilà. La grâce de Dieu te transforme. Et un ancien ne peut pas être ancien, ne peut pas enseigner une vie, ne peut pas t'exhorter à avoir une vie transformée si lui-même n'a pas été transformé par l'évangile. Mais on ne parle pas de choses dingues. C'est est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait le disqualifier aux yeux de la ville, aux yeux de ses voisins, qui voient sa vie avec son épouse, qui voient sa vie avec ses enfants, qui voient son caractère, qui voient son attachement à l'évangile. Et on regarde ça. Donc si ça t'a surpris, choqué, on peut en discuter encore, hein. Mais chaque église, il nous semble, hein, que ce texte est en train de dire que chaque église a besoin de leaders capables d'enseigner l'évangile qui les a transformés eux-mêmes. Tu ne peux pas devenir un responsable et enseigner à d'autres le changement de vie si toi-même tu n'as pas été transformé. Et c'est ça que Paul recherche dans les hommes qui composent l'équipe de leadership, l'équipe d'anciens d'une église. Et donc, j'espère maintenant que tu vois un peu plus clairement. Quand tu votes pour un ancien, tu voteras pour un homme qui a été transformé et qui, deux choses au niveau aptitude, il est capable d'encourager, il ressent un désir, une soif d'encourager les chrétiens et un courage qui est là ou un appel qui est là à réfuter les contradicteurs, à les pointer du doigt quand il y a un problème, quelqu'un se met en danger. Mais sinon, le reste, c'est assez basique. Pas colérique, pas alcoolique, pas infidèle à sa femme, on voit que ses yeux traînent. Donc, tu vas savoir comment voter pour des anciens. Deux, tu viens d'apprendre quel est le rôle d'un ancien envers toi. Tu as droit à quoi de la part des anciens de l'église de Pont? Là, c'est une question pour toi. Qu'est-ce qui est dans le texte? Bonjour, on est dimanche matin. Tout le monde s'est réveillé. On est bientôt à la fin. Tu as le droit d'être encouragé par les anciens. Et plus littéralement, dans beaucoup de traductions, tu as le droit d'être exhorté par les anciens. Nous sommes là pour t'aider dans la vie chrétienne. Pour t'aider avec ce péché qui ne veut pas partir dans ta vie. Pour t'aider avec cette émotion qui te culpabilise. On est là pour t'aider avec cette situation de ton passé qui te hante depuis 25 ans. On est là pour t'encourager, t'exhorter, t'aider à progresser. Et on est là pour te protéger des mauvaises doctrines, que ce soit des doctrines clairement non chrétiennes ou que ce soit des choses beaucoup plus pernicieuses, des détournements de textes bibliques, des oublis du contexte d'un passage. Moi, je connais quelqu'un qui, en lisant la fin de Thessaloniciens, où il est dit « Testez toutes choses », a commencé les drogues, a commencé le yoga, et elle avait cette pensée en elle, cette personne, Teste toute chose, teste toute chose. C'est dans la Bible, teste toute chose. Et le texte, dans son contexte, c'est quoi? Ne méprisez pas les prophéties, mais testez-les, éprouvez-les. C'est complètement autre chose, c'est pas teste tout. Et il y a plein d'erreurs pernicieuses qui arrivent comme ça. Et on est là pour essayer de veiller sur toi, pour ton bien, pour que toi tu puisses avoir cette espérance de la vie éternelle. Jésus reviendra bientôt. J'espère que tu sais mieux comment prier pour les anciens. Parce que ce n'est pas toujours évident d'encourager, d'exhorter. Il y a des moments où nous-mêmes, on a besoin d'être encouragés ou exhortés, et nous, on est fatigués, ou nous, on est découragés. Prie pour nous, qu'on ait de la joie de servir l'Église. Prie pour nous, qu'on soit courageux là où il faut être courageux, qu'on soit doux là où il faut être doux, qu'on soit persévérant là où il faut persévérer. Quatrièmement, j'espère que tu te rends compte, et là je parle de nouveau aux jeunes, aux enfants et aux personnes qui ne sont peut-être même pas chrétiennes, que cette liste n'est pas inatteignable. Et j'espère que tu désires grandir à grande vitesse dans tous ces domaines pour que toi-même, tu puisses prendre des responsabilités, pour que toi-même, tu puisses encourager d'autres, pour que toi-même, tu puisses défendre cette doctrine, cette bonne nouvelle que Jésus nous a donnée en mourant à la croix pour nos péchés et en revenant à la vie 3 jours plus tard. J'espère que tu ressens un désir en toi de pouvoir un jour être responsable, de pouvoir commencer à redonner à d'autres ce que tu as reçu. Il y aurait plein d'autres conséquences. Mais on va s'arrêter à ça, pour qu'on puisse quand même avoir quelques minutes pour baptiser Loïc. Allez, un dernier. J'espère que tu te rends compte qu'aucune église n'est là éternellement. Aucune église existe depuis 2000 ans. Les églises locales viennent, elles passent par une phase de croissance, elles annoncent l'évangile, elles se réjouissent de ce que Jésus a fait et elles disparaissent dans l'histoire. Et de nouvelles églises naissent, elles fleurissent, elles annoncent l'évangile, elles se réjouissent de l'évangile, elles le propagent autour d'eux et à un moment, il y a quelque chose qui se passe et elles disparaissent. Et il faut être lucide, si Jésus ne revient pas dans notre vie, Pont ne sera pas là éternellement non plus. Mais si nous avons une génération, vous, nous, qui aspirons à devenir des hommes et des femmes mûrs, qui connaissent Jésus, qui connaissent comment l'évangile est censé changer chaque aspect de notre vie, et on est toujours en train de progresser et se réjouir de cet évangile, et on se sent dépendant de la grâce de Dieu tous les jours de notre vie, l'Église, je pense, vivra au moins jusqu'à la génération suivante. Et elle, sans doute, elle vivra à chaque génération où on s'est posé ces questions-là, où on a aspiré à la charge de responsable. Et j'espère que tu aspires à être quelqu'un, oui, je comprends, on ne sera pas tous responsables d'Église, oui, on progresse tous à des rythmes différents, mais est-ce que tu aspires à progresser? Et je parle aussi à vous, les gars. Je parle aussi à vous, les gars. Vous êtes baptisés cette année. Et franchement, je sais que tes parents vont peut-être me juger pour ça. Tu vas 10 ans dans une église, dans une petite église, avant 30 ans, tu es ancien. Si tu es en train de t'attacher à Jésus, en train de progresser au quotidien. On a besoin de responsables. On a besoin de responsables. Partout. Je vais prier. Père, merci tellement pour ta parole, merci pour le travail que tu es en train de faire dans chacune de nos vies. Tu vois ceux qui ne croient pas en toi, qui ne croient pas que Jésus est mort pour leurs péchés, s'il te plaît. Aie pitié d'eux et ouvre leurs yeux. Tu vois nous tous qui sommes en train de lutter avec des péchés, avec le découragement, ou qui sommes en train de se poser des questions, mais comment servir dans mon église, qu'est-ce que je peux faire, s'il te plaît, montre-nous. Aide-nous à progresser, qu'on soit fermement attachés à ta parole, à cette bonne nouvelle qui nous sauve. Et s'il te plaît, permets qu'on soit une communauté forte, une communauté qui est humble, qui dépend de toi et qui en même temps progresse, grandit par ton Saint-Esprit qui agit en nous. Et Père, tu vois s'il y a des choses qui n'ont été pas utiles, tu vois qu'on peut vraiment désirer les bonnes choses pour les mauvaises raisons, ce qui peut purifier nos désirs et permet qu'on soit une communauté qui ait des désirs sains et irréprochables. Amen. Thank you.